RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Chine. Le pays s'attend cette année à un chiffre de croissance de 6,5%. Jamais depuis 1990, la performance économique n'a été si faible. Cet essoufflement touche aussi la province du Guangdong, dans le delta de la rivière des Perles, de plein fouet. Guangdong, l'usine du monde et plaque tournante du commerce extérieur, des machines à laver en passant par les baskets et les sacs en faux cuir. Ici, les usines fabriquent tout à destination du monde entier. C'est là, dans la capitale, Canton, et plus précisément dans le quartier de Chaobei, que des dizaines de milliers d'Africains ont élu domicile à la fin des années 90, attirés par le miracle chinois. Mais aujourd'hui, les problèmes s'accumulent pour ces hommes d'affaires. Le prix de la marchandise a augmenté, le dollar comme principale monnaie d'échange est devenu trop cher, et il est de plus en plus difficile d'obtenir un visa. À Chaobei, surnommée la Petite Afrique, beaucoup de commerçants donc plient bagages. Canton, la fin du rêve chinois hante la Petite Afrique. Un grand reportage signé Heike Schmidt.
Dans la rue Chaobei, sur les étals des épiceries, le chou chinois côtoie encore des bananes plantains. Mais l'horloge à la réception de l'hôtel Tianchu, censée afficher l'heure de Brazzaville, reste figé sur 6h45. Personne n'y prête plus attention. Alors, on est où ici?
Voilà, on est à Tianchu, l'immeuble connu de tout le monde. Des gens qui sont en Afrique, en Europe. Quand on parle de Tianchu, c'est là où on trouve beaucoup des Africains. Nous avons les Congolais, comme moi, bien sûr. Nous avons le Malien, nous avons les Nigériens, les Sénégalais, les Guinéens. Bonjour.
Feli Mwamba arbore jeans et t-shirts de grandes marques. Mais il s'agit de contrefaçon. Ce commerçant jovial est depuis une quinzaine d'années l'un des piliers de la communauté congolaise de Canton.
Donc on est là, ici à Tianchu. Et le bloc B, c'est administratif. Il n'y a que deux bureaux et quelques magasins qui sont au premier, deuxième, troisième, quatrième niveau. Il y a aussi des Chinois, bien sûr, qui ont leur boutique, qui vendent des téléphones, habits. Il y a presque tout ici. Hein. Il y a aussi presque tout pour les gens peut-être qui achètent en détail. Nous avons aussi beaucoup des Africains que vous voyez peut-être qui sont dans le parage. Ça, c'est comme à l'époque, on disait un peu l'Afrique, un coin africain. En réalité, c'est ça aussi.
La Petite Afrique.
Exactement.
On disait aussi chocolat. City.
Exactly.
Est-ce que c'est en train de changer ici? Est-ce que Chocolate City est en train de se vider?
Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas, vous savez, à l'époque, par exemple, si nous sommes ici à Tianchu, vers 18h, 19h, vous allez voir, il y avait tellement de monde. Mais actuellement, vraiment, c'est différent. Il n'y a pas beaucoup de gens.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'affaires.
Il n'y a pas beaucoup d'affaires. Et puis l'économie aussi est en ébullition partout. Donc ça joue aussi avec tout ça. Beaucoup de gens viennent en Chine acheter et puis aller revendre. Alors, si vous achetez des choses et que vous ne revendez pas cela normalement, dites-moi, quand est-ce que vous allez encore revenir ici? C'est ça le problème.
Et si en plus on a les prix qui augmentent ici, les prix de production,
voilà.
Et la main-d'œuvre qui coûte plus cher.
Voilà, tout ça ce sont des choses aussi qui peuvent pousser des gens à quitter, à partir. Voilà.
C'est l'heure de la prière. Nous partons à la mosquée en compagnie de Madiani, venu du Mali il y a 13 ans, pour réaliser son rêve chinois, faire fortune dans l'export vers l'Afrique de marchandises fabriquées en Chine. Ça se passe bien avec les Chinois?
Oui, oui, oui. Bon, souvent, c'est un peu difficile, c'est dur.
Et les affaires vont bien?
Ça va pas. Le marché n'est pas comme avant. Avant, c'était bon, mais il y a trois ans passés, là, c'est un peu difficile. C'est les monnaies qui nous tuent. Oui, parce que chez nous, en Afrique, il n'y a pas de dollars. C'est ça qui pose beaucoup de problèmes.
7, 8, 9, 10, ok. Yeah, bye bye. C'est génial.
Au dollar devenu trop cher se rajoute le ralentissement économique en Chine. Aujourd'hui, Canton n'est plus l'Eldorado qui a attiré tant de commerçants comme Madiani. Des 20 000 à 30 000 membres de la communauté africaine, la plus grande d'Asie, n'en resterait plus que quelques milliers tout au plus. Pourtant, ces hommes et ces femmes d'affaires ont contribué eux aussi à l'explosion du commerce entre la Chine et l'Afrique. Les échanges sont aujourd'hui 20 fois plus élevés qu'en 2000. La mosquée de Tiaobei. Ici, les Chinois font leurs ablutions à côté des croyants africains. C'est l'un des rares endroits où les deux communautés se côtoient. Sans a priori, nous disent Cheng Yong et Zhang Zhongfu, qui donnent du salam alaikum à leurs frères musulmans venus d'Afrique.
Tous les musulmans dans le monde sont des frères. Allah est notre Dieu. Ils viennent de Chine ou de l'étranger, et nous sommes une seule et même famille. J'admire d'ailleurs que nos frères africains fassent leur prière 5 fois par jour et nous montrent l'exemple.
Nous partageons la même foi. Elle est sacrée et unit toutes les peaux et les couleurs différentes. Ils ne comprennent pas notre langue, nous ne comprenons pas la leur, mais il n'y a aucun souci entre nous.
Ibrahim de Sierra Leone, jeune père de famille en jean et chemise à carreaux, vient lui aussi prier dans cette mosquée pour un moment de détente dans sa vie de galère.
C'est très difficile, il n'y a plus de business. Nous avons des proches en Afrique qui nous envoient de l'argent pour qu'on achète des marchandises ici. Des chaussures, des vêtements, des sacs, tout. Et nous touchons une commission. Mais maintenant, tout le monde se plaint. Le taux du dollar a augmenté, tout est devenu cher, c'est dur. La plupart d'entre nous vit à crédit. Même moi, je pense à partir. Il n'y a plus rien ici.
Bon nombre de restaurants halal tenus par les membres de la minorité chinoise des Ouïghours, musulmans, ont mis la clé sous la porte. Quelques agences de transport maritime proposent encore leurs services porte à porte entre la Chine et le Nigeria, le Congo, l'Ouganda ou encore le Cameroun. Mais les clients ne s'y bousculent pas. La Chine a durci sa politique d'immigration, nous dit Ibrahim.
Si vous avez un bureau et un logement, ils vous donnent un visa.
Moi, j'avais l'habitude d'aller en Malaisie pour renouveler mon visa, mais ça coûte cher. Donc j'ai décidé de retourner à l'école pour obtenir des papiers. La plupart des Africains ici n'ont pas de visa. Ils courent dès que la police arrive. Si vous êtes arrêté, vous devez payer une amende de 1300 euros et vous devez payer pour votre billet de retour. Si vous n'avez pas assez d'argent, ils vont vous emprisonner pendant 3 voire 4 mois. C'est de plus en plus dur. Moi, je veux renvoyer ma famille en Afrique. Les écoles ici sont très chères et nos enfants y sont discriminés. Vous êtes noir, vous êtes étranger, c'est mauvais. Les gens ferment leur nez devant vous comme si vous sentiez mauvais. Ils vous appellent de tous les noms, c'est difficile à supporter.
Dans le nouveau centre municipal de service aux étrangers, les policiers font leur pause cigarette avant de reprendre leur patrouille. C'est ici qu'une association propose des cours gratuits de mandarin. Wang Haige est l'un des responsables.
Nous sommes une association subventionnée par l'État. Nous organisons des activités pour que les étrangers s'intègrent plus facilement. Chaque jour, il y a un cours de mandarin. Nous donnons aussi des renseignements sur les lois à respecter, les services médicaux ou des informations sur la location de logements. Nous avons même créé 2 équipes de foot. Les Africains aiment bien le football et cela aide à promouvoir les échanges avec les locaux.
Quelques mètres plus loin, des policiers, leurs matraques posées sur les genoux, guettent les passants d'un œil vigilant, mais plutôt bienveillant.
Les Africains vivent dans ce quartier. Si les affaires vont bien, ils restent longtemps. Si ça ne marche pas, ils repartent. Leur objectif, c'est de faire fortune ici. Nous patrouillons dans les rues. S'ils embêtent les passants ou s'il y a des différends entre eux, nous devons les régler ou bien nous les chasserons d'ici. Si vous avez le moindre problème, appelez le numéro 110 et nous arrivons dans les 3 minutes.
Pas besoin d'appeler le 110, tout est calme dans Africa Town, comme les Nigérians appellent Tiaobei. Presque trop calme au goût de ces femmes originaires du Hainan, assises sur le bord d'un carré de fleurs face à la sortie du métro de Tiaobei. L'ennui, mais aussi l'inquiétude, se lisent sur le visage d'Ai Wang, venu dans la métropole de 13 millions d'habitants à la recherche d'un travail.
Avant, sur la passerelle, là et en dessous, les Africains étaient partout. Mais ces derniers temps, on ne les voit plus trop. C'est difficile maintenant de faire du commerce. J'ai travaillé dans l'un des restaurants africains. Les patrons gardaient toujours la porte fermée de l'intérieur. Un jour, trois policiers sont entrés. Les Africains ont eu peur et puis ils ont dû payer une amende. Sinon, les policiers les auraient arrêtés, évidemment. Actuellement, ils sont sérieusement contrôlés. Et puis, ils ne gagnent pas assez d'argent. Du coup, ils ne reviennent plus.
Oui, Félix.
Oui, je l'ai expliqué. Donc, dès que vous arrivez, c'est devant l'entrée dans le marché, vous m'appelez et puis je sors.
D'accord, on va vous appeler dès qu'on arrive. Merci, à tout de suite.
D'accord, merci à vous.
L'appel de Félix Mamba interrompt notre conversation avec les femmes du Renan. L'homme d'affaires congolais nous a donné rendez-vous dans un centre commercial. Derrière la façade, aux allures du temple grec, s'étale le royaume de la contrefaçon chinoise. Bienvenue au centre mondial du commerce de cuir Baiyun Guangzhou. Sur 12 étages, des boutiques vendent des portefeuilles, des chaussures, des sacs à main, des ceintures, enfin tout ce qui peut plaire aux clients étrangers. C'est ici que Félix Mamba vient faire ses provisions.
Ce sont les imitations. Ici, ils font quand même la qualité qui est bonne, mais qui n'est pas originale. Tu vois, par exemple, ici, il y a trop de marques. Il y a Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Givenchy, Fendi. Dans ce coin ici, avec une somme de 50 dollars, 100 dollars, 80 dollars, quelqu'un peut avoir aussi un sac et il est fier de ça. Voilà.
Sur ses deux téléphones portables, Félix Mamba jongle entre le chinois, le lingala et le luba. Puis, du bout des lèvres, il admet qu'en 15 ans, il n'a jamais envoyé aussi peu de conteneurs vers l'Afrique que l'année dernière. Quant à son avenir en Chine, il préfère rester philosophe.
Vous savez, à l'époque, on était en mesure d'envoyer 10, 15 par an. Mais actuellement, c'est pas facile.
Il y a combien cette année ?
Bon, 2017, on n'a pas encore commencé. Mais 2016, ça a été aussi difficile. Hein. Je ne suis pas allé au-delà de 4. Oui. Si vous n'arrivez plus à recevoir les gains ou bien les avantages dans les affaires que vous faites pendant une année, pendant 2 ans, vous voyez les conséquences. Vous ne faisiez qu'utiliser vos moyens dont vous avez. Ce sont les cas que personnellement j'ai connus depuis 2015 et 2016. Parce que vous savez, il y a tellement beaucoup de Chinois en Afrique. Chez nous, au Congo, il y en a beaucoup de Chinois. C'est un problème pour les autres de vendre parce qu'ils baissent les prix. Donc ça, c'est un gros problème qui existe aussi.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Africains qui veulent encore venir en Chine pour faire du commerce? Est-ce que vous le conseillez vivement ou est-ce que vous mettez plutôt en garde?
Quant à ceux qui veulent vivre maintenant en Chine, ça, il faut être très prudent. Il faut vraiment être bien informé pour ne plus tomber dans des problèmes. Même nous qui vivons ici en Chine, nous devons penser à retourner, à faire quelque chose dans nos pays africains. Parce que, vous savez, chez autrui, c'est toujours chez autrui. Mais si tu es chez toi, tu as de bonnes conditions, tu peux vivre bien et puis tu seras à l'aise.
Entre-temps, son amie Tania a négocié quelques beaux sacs à main. Étudiante en Chine, elle arrondit ses fins de mois avec des commandes venant du Congo. Les racoleurs nous tendent leurs cartes de visite truffées de photos de sacs et de montres aux noms évocateurs. Fendi, Hermès, Gucci. Difficile de savoir s'il s'agit de vrais ou de faux, même pour l'œil expérimenté de Tania.
Alors personne ne va remarquer que je porte un Gucci faux.
Non, parce que moi je vends ça, j'ai des clientes là-bas à Kinshasa, malgré que je suis étudiante. Il y a 2 fois, mes parents me donnent de l'argent, je reçois de l'argent de la bourse, j'ai mis tout dans les affaires. Et comme ça, j'achète, j'envoie à mes clients. J'achète ça à 100 dollars, au pays je vends à 300 dollars. Ils savent que c'est du vrai.
Ils pensent que c'est du vrai.
Ouais, bah, ils pensent même pas, pour eux c'est du vrai, il n'y a pas de choix, c'est du vrai.
Lorsque sa commande arrive, les sacs sont soigneusement emballés. Mieux vaut alors partir sans se faire surprendre par la police. Ces derniers temps, les contrôles se sont multipliés.
Maintenant, parce qu'il y a la contrôle, on ne peut pas ouvrir les colis ici au marché, de peur qu'on puisse les arrêter. Non. C'est une coopération, toujours. On se comprend entre nous et eux, donc voilà.
Pendant longtemps, les contrefaçons ont aussi fait le bonheur des vendeurs de cet autre marché de la vente en gros, Gwangda. Mais aujourd'hui, les grossistes ont du mal à écouler leur stock. Des tas de t-shirts encore emballés s'empilent devant leur boutique. Faute de clients, cette patronne drapée dans un manteau en faux cuir rouge additionne ses dernières ventes sur une calculatrice tout en regardant un feuilleton sur son petit écran.
Il y a quelques années, je vendais super bien, mais là, il n'y a plus personne. Pourtant, les Africains nous achetaient à chaque fois de grandes quantités, 700 voire 800 pièces.
Quelques rares commerçants sont encore en quête de bonnes affaires, comme ce jeune Éthiopien.
Comme je suis un bon client, il m'accorde un prix abordable, 6 euros par blouse.
À combien pouvez-vous le vendre à Addis Abeba ?
À environ 19 euros.
Un tiers des clients ici sont des commerçants africains. Le marché en dépend, admet la gérante Yunavu. Les chiffres d'affaires sont en baisse. Elle cherche désormais de nouveaux débouchés pour les grossistes chinois en Afrique.
Beaucoup d'usines de textiles ont dû fermer. La demande intérieure est faible. Pour écouler nos stocks, nous devons exporter vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Notre objectif est même d'ouvrir des marchés en gros comme celui-ci en Afrique. Cela répond à l'appel de notre gouvernement de créer une nouvelle route de la soie afin de réduire notre production excédentaire. Cette année, nous allons donc prospecter au Sénégal, en Tanzanie et au Kenya. Au début de 2018, nous démarrerons notre projet d'investissement. Pour commencer, des vendeurs chinois devront s'installer là-bas, mais petit à petit, nous recruterons des locaux pour gérer ces marchés. Ici, les usines font faillite. La Chine passe un long hiver économique. Le prix des matières premières a augmenté, celui de la main-d'œuvre et donc de la production aussi.
Entre 2005 et 2016, le salaire des ouvriers chinois a triplé. Selon une étude d'Euromonitor International, le tarif par heure est désormais de 3 euros, plus élevé donc que celui d'un ouvrier brésilien ou thaïlandais, et à peine en dessous du salaire d'un ouvrier grec, payé 4 euros l'heure. Dans ces conditions, il faut négocier dur pour obtenir la marchandise à un prix compétitif. Jocelyn Naloki en sait quelque chose. Domicilié à Canton avec son entreprise, cet homme d'affaires togolais exporte des portes en bois et du matériel de construction vers l'Afrique.
Actuellement, même il y a des prix qui ne sont plus très compétitifs. Il n'y a vraiment pas de cas avec l'Europe ou les États-Unis. Maintenant, ça joue sur la qualité. Je dis, bon, si le prix doit être, je dois avoir juste une petite différence, je préfère prendre en Europe ou aux États-Unis où je n'ai pas à me plaindre de la qualité. Ça empiète beaucoup, mais bon, on fait avec.
Riche de son expérience chinoise, Jocelyn Naloki veut créer une entreprise chez lui, au Togo.
Je vais beaucoup m'inspirer de la Chine, de la manière dont ça marche ici. Je n'avais aucune base technique ou encore le maniement de l'argent. C'est des choses qui m'échappaient. Mais ici, j'ai appris à manier de l'argent, j'ai appris à comprendre l'argent, la perspicacité au niveau de la gestion d'une entreprise, de la gestion des affaires et comment traiter avec les clients. J'ai beaucoup appris, vraiment.
Jocelyn, solide Gaïa, marié à une Chinoise, restera un pied en Chine, l'autre au Togo. Il n'est pas le seul à penser au départ. Les uns tentent leur chance au Vietnam où la main-d'œuvre est moins chère. D'autres retournent au pays et c'est tant mieux, estime Jocelyn Naloki.
Il a fallu cette crise pour que les gens commencent pas à réfléchir à un retour au pays et puis qu'on peut le dire à quelque chose, malheur est bon. Donc à cette crise, ça arrange un peu l'Afrique. Ça permettra à ce que l'Afrique commence par réfléchir autrement. Qu'il doit commencer par se battre parce qu'on a tout vraiment au pays. Ça me fait mal que ce bois qu'on l'exporte du Togo et qu'on me ramène la même chose. Je me dis, mais pourquoi?
Après le rêve chinois, Jocelyn caresse donc son rêve africain. Au lieu de passer par la Chine, il fabriquera des portes chez lui au Togo avec du bois issu de l'Afrique. Canton, la fin du rêve chinois hante la petite Afrique. Grand reportage avec Schmidt et Hanno Wu. Réalisation Lorenz Sildané.